Donc oui, bienvenue à Montréal, ici Patrick au micro. Et cette fois-ci, je ne suis pas tout seul, je suis avec le fabuleux concepteur de jeux seniors qui répond au doux nom de Grégory Bellassel. Bien le bonsoir Greg, est-ce que ça va bien?
Effectivement, mon nom sonne très doux quand c'est toi qui l'as dit de cette façon, Pat.
On va arrêter, sinon des rumeurs vont commencer à apparaître sur Internet et je ne suis pas prêt. Là. Les fêtes arrivent, là, je ne veux pas avoir des discussions bizarres pendant les rencontres des fêtes. Es-tu correct avec ça?
J'ai pas de problème.
Greg, ce soir, les responsabilités de consommation de poutine et d'animation tombent sur tes épaules. Que penses-tu faire?
J'ai déjà commandé la même poutine que la dernière fois parce qu'une fois que j'en ai trouvé quelque chose que j'aime, je ne reste pas original. Mais surtout, on va rencontrer quelqu'un qui j'ai déjà eu l'occasion de travailler, quelqu'un qu'on a déjà eu l'occasion de recevoir aussi sur Les Jeux sont faits, Pierre-Luc Foisy, qui est un lead level designer en ce moment chez Ubisoft, mais qui a une très longue carrière dans l'industrie. Ça fait un peu plus qu'une quinzaine d'années. Il a été dans des studios grands et petits. C'est probablement une des rares personnes qui savent ce que c'est faire un jeu Game Boy Advance, parce que ça a été un de ses premiers... mandat en tant que concepteur, c'était de faire des jeux sur GBA. Donc, on va parler un peu de son cheminement, mais aussi comment est-ce qu'il a vu le métier de game designer évoluer, justement, de ses débuts dans le domaine, sur des plus petits jeux, des jeux 2D, vers des plus gros studios, des plus grosses productions, comment est-ce qu'il a vu le métier de concepteur de jeux, de concepteur de niveau évoluer. Puis on va parler aussi peut-être un peu comment il voit, comment il envisage l'avenir pour ces deux métiers-là.
Absolument. Puis au-delà de ça, pour moi, Pierre-Luc, bon, effectivement, il connaît bien le design. C'est un généraliste, il a fait du level, de la mécanique. C'est un gars aussi en design qui me fera beaucoup pour son côté humain. Puis ça, j'espère qu'on va avoir l'opportunité de parler de ça aussi, d'au-delà du design. Des fois, tu as travaillé en équipe et je trouve que c'est un des gars qui le comprend le mieux.
Oui, ça, je pense, encore une fois, des gens qui ont tant d'expérience dans tant de domaines divers de la conception, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas tant que ça à Montréal. Donc, je suis sûr qu'on va apprendre, qu'on va entendre quelques bonnes histoires, qu'on va apprendre aussi deux, trois choses inusitées.
Et ma foi, d'une perspective historique, je suis très content. C'est l'homme qui nous a amenés à se rencontrer, à collaborer ensemble. Donc, d'une certaine manière, à ce soir, j'ai l'impression qu'on ferme une boucle et j'en suis très fier.
Ah, effectivement, c'est un peu grâce à lui qu'on s'est... Non, en fait, c'est grâce à lui qu'on s'est rencontrés, ouais.
Voilà, on va se dire la vérité. Sur ce, Greg, je sais pas si t'as faim, mais moi, ça commence vraiment à être dû, donc je crois qu'on va aller vers le restaurant.
Allons-y. Donc, nous sommes une nouvelle fois au merveilleux Hippie Poutine sur Saint-Denis et je reçois Pierre-Luc Foisy, qui est un level designer, game designer d'expérience. Ça fait au moins 17 ans, c'est ça que tu es dans l'industrie, si je ne m'abuse?
Oui, exactement. Non, ou pas, mais ça fait entre 15 et 17 ans, dépendamment si tu comptes ma phase de testing.
Ah, oh, ben OK, on va compter la phase de testing, mais donc au moins une quinzaine d'années vraiment dans la conception de jeu en tant que tel.
C'est ça.
Déjà, je suis très content de recevoir parce que, bon, pour faire la petite histoire, on a travaillé ensemble chez Warner sur Arkham Origin et le DLC Cold Cold Heart, mais aussi tu es la personne qui m'a introduit à mon comparse, Patrick Tellan. C'est toi qui m'a amené au podcast Les Jeux sont faits, passé comme invité et éventuellement, je suis resté comme co-host par la suite.
Oui, notre producteur bien-aimé, Patrick Tellan, que j'aime bien plugger une fois de temps en temps comme ça.
Non, mais c'est ça. Donc, c'est quand même cool. Ça fait un certain temps qu'on ne s'est pas vu. Là, on brise un peu la tradition parce que, vu que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on a beaucoup parlé avant de commencer à enregistrer l'émission. Et on a donc eu le temps de commander la poutine et de la recevoir. Mais je veux quand même néanmoins qu'on parle de l'assiette et de ton choix de poutine. Qu'est-ce que tu as choisi, Pierre-Luc?
Bien, moi, j'aime les choses... J'aime les sauces fortes. Alors, j'y étais pour ma première expérience chez Hippie Poutine avec la Mexico. Alors, qui consiste de chili con carne, du fromage, des piments forts et, je crois une sauce brune normale avec du fromage.
C'est une sauce chili, là. C'est vraiment une préparation style chili con carne.
Exactement. Et moi, ça fait déjà depuis 3-4 jours que je vais manger des tacos. Alors, je suis bien content de transposer mon désir de manger du mexicain vers une poutine mexico que j'avais jamais goûté comme ça. C'est très
bien. Une fusion parfaite de deux désirs, la poutine et le taco.
Effectivement. Ceux qui me connaissent bien savent que j'aurais aimé ça aussi, un burger, mais le burger pourra attendre à un prochain podcast.
Effectivement, si un jour on fait burger à deux, qui sait, peut-être oui. Un spin-off à venir un jour. Moi, j'ai pas fait dans l'original, je suis resté avec la Glasgow, parce que la dernière fois, elle était particulièrement bonne. Et quitte à prendre une poutine, je préfère prendre une poutine qui est une valeur sûre pour moi. Mais, Pierre-Luc, je t'ai pas reçu juste pour parler de poutine mexicaine ni de taco. Comme on l'a dit, tu as une longue expérience dans le jeu vidéo et ce que je trouve intéressant quand on regarde un peu ta feuille de route, si on remonte au début de ta carrière, tu as fait des jeux sur Game Boy Advance, par la suite tu as travaillé sur des gros projets de AAA, tu as vraiment pu voir dans les 15 dernières années comment le design a évolué, puis définitivement on va parler de ça, mais avant j'aimerais ça te faire découvrir à nos auditeurs, parce qu'on aime bien savoir c'est un peu quel était ton premier contact avec les jeux vidéo, qu'est-ce qui t'a vraiment donné l'amour pour ce médium-là dans ton enfance, qui est des... Le moment qui t'a marqué, une console, qui a été le déclic, un jeu particulier, tu fais comment, mon Dieu, les jeux vidéo, c'est génial?
Il y en a plusieurs, mais celui que je peux faire le meilleur lien, c'est l'Atari 2600, qui était chez un des amis à mon père. Donc, il y avait des enfants, puis il y avait un Atari 2600 qui était là. Puis il y avait le jeu qui s'appelle Spider-Man. Puis Spider-Man, sur cette console-là, ça consistait juste à monter jusqu'en haut du building en faisant des web-swings. Puis en évitant les bombes de gobelins. Puis c'était juste ça le gameplay, mais pour moi, c'était des graphiques révolutionnaires à l'époque. Puis la mécanique était incroyable. Il fallait que tu montes jusqu'en haut, il fallait que tu essaies de te soigner, puis de te balancer de gauche à droite pour essayer d'éviter les trucs. Puis ça, c'était excellent. Fait que ça, c'est mon premier contact. C'est là que je me suis dit, je veux faire ça dans ma vie. J'avais 5 ans.
Wow! J'avais 5 ans.
Fait que je savais que je voulais faire ça, je savais juste pas comment m'y rendre.
Non, mais
c'est
ce que.
Il y avait rien.
Non, c'est ça. C'était la même chose pour moi, peut-être pas nécessairement sur du Spider-Man, sur Atari, mais je comprends. Quoi?
Sur quelle console?
Moi, ça a été à l'époque plus de la Master System.
OK. En France, là?
En France.
OK, c'est ça. Okay.
Mais donc là, on parlait, juste peut-être pour ceux qui n'ont peut-être pas eu la chance de connaître cette merveilleuse machine qui était l'Atari, on parle d'un jeu monochrome, là, noir et blanc.
Non.
Pixelisé. Non, décrivez-nous un peu le Spider-Man. Moi, j'ai aucune idée à quoi ça ressemble.
Ah, Atari 2600, je pense. Je sais plus combien de couleurs qu'il y avait à l'écran. C'était peut-être 4 ou 6 ou je sais pas quoi. Mais,
quand même.
Mais Spider-Man, il était quand même rouge et bleu. Le building, il était quand même blanc ou beige. Puis le gobelin avait quand même une couleur verte en quelque part là-dedans. Avec soit du orange ou du rouge pour ses bombes, là, mais je m'en souviens plus. Mais le web que tu tirais pour t'attacher était... Je vais dire noir, là, mais là, je vais vraiment sur du par cœur très, 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 très flou, là, on s'entend.
Si le building était blanc, c'est normal que le fil était noir, effectivement, pour qu'il ressorte.
Ou brun, mais peu importe. On s'en fout. Mais là, ça fait beaucoup trop de couleurs que j'ai nommées dans le même écran. Ça marche pas. Fait que...
Donc là, déjà, dès l'âge de 5 ans, tu joues à un jeu qui est quand même, par les standards d'aujourd'hui, relativement simple. Ouais. Déclic, tu dis, bon, moi, plus tard, je vais faire des jeux vidéo. J'imagine qu'il y a probablement d'autres jeux qui, plus tard, t'ont marqué au fur et à mesure que t'as continué à être un gamer?
Ben, c'est pour ça que je voulais dire que ma confirmation de ça était le jeu Bionic Commando sur Nintendo 8-bit, qui était...
Classique.
Qui était... Ouais, mais moi, c'est le premier jeu que j'ai commencé à faire des speedruns.
Oh, d'accord.
C'est le premier jeu que j'ai mis un chrono devant moi, puis j'ai dit, OK, là, je vais avoir full health, full... Tu sais, toute ma vie, toutes les armes, puis en combien de temps je peux aller péter Hitler à la fin? Parce que c'était un peu un... C'était pas nommé comme ça, là, mais c'était vraiment ça que t'allais faire, là. Puis, fait que ce game, puis là, ma confirmation vient du fait que quand j'ai vu ça, j'ai dit, OK, je veux vraiment faire des jeux vidéo. Puis, il y a un autre lien qui se tisse aussi quand que je parlerai de mes premières expériences sur Game Boy Advance, mais il y a un lien aussi que je peux faire avec tout ce temps de jeu-là. Là, je peux faire, il y a une connexion qui s'est faite, puis que j'étais chanceux, c'est que, peut-être je peux en parler tout de suite, on s'entend, là, mais le jeu Kim Possible sur Game Boy Advance, on a eu le mandat de faire le deuxième parce que le premier n'avait pas bien marché, fait par une autre compagnie. Puis on a fait le deux. Puis elle a un séchoir à cheveux. Mm-hmm. Le séchoir à cheveux, elle, dans son show, elle s'en sert. C'est un cartoon américain là, que je connaissais pas. Il fallait faire un jeu là-dessus. Puis elle, son séchoir à cheveux, elle s'en servait comme hook pour s'accrocher au plafond puis swinguer. Donc exactement la même méthode que Spider-Man et The Bionic Commando. Mais moi, quand j'ai vu ça, mon premier game design que j'ai fait dans ma vie, c'est, ben, pas mon premier, mais une des mes premières expériences dans l'industrie, c'était, hey, essaie de faire la mécanique de Bionic Commando. Fait que moi, au lieu de voir un jeu pour enfants poche, parce que la plupart des gens pourraient voir ça comme c'est plate, tu fais un jeu pour enfants, c'est basé sur une licence que tu connais pas très, très bien. Ben, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, hey, je vais appliquer le meilleur jeu de mon enfance. Je vais l'appliquer dans un cartoon que je connais pas, mais je vais faire le meilleur jeu quand même avec ça. Puis ça a bien été.
Non, j'avoue que c'est quand même.
J'ai adoré ça.
Une opportunité assez incroyable de dire. Un de mes mandats, c'est littéralement de recréer une mécanique qui m'a marqué. Que ce soit donc le web de Spider-Man ou le truc de Bionic Commando. Non, j'avoue que c'est comme si c'était le destin. Hein,
ben, un peu, parce que moi, je voulais faire du 16-bit dans ma vie, parce que le Super NES, la Genesis, la Mega Drive pour l'Europe, là, c'était un de mes rêves de faire ça. Fait que la Game Boy Advance, essentiellement, c'était... En dessous du capot, c'était pas mal. C'était une Super NES déguisée là, avec les quatre layers de parallaxe, puis le nombre de sprites, le nombre de la résolution. Ben, la résolution est un peu différente, là, mais les contraintes techniques, là, c'était pas mal pareil. Puis moi, j'ai adoré faire ça. On a fait trois jeux en un an. Bout à bout, là, si tu parles de conception, HP, un jeu, trois jeux en un an. C'était incroyable. J'ai appris Photoshop, j'ai appris comment faire démonter des design docs, j'ai appris comment utiliser mes premiers éditeurs. Dans les éditeurs, j'étais là-dessus. C'est un engin maison fait par un programmeur que je salue encore, parce que c'était une équipe de programmeurs, parce que c'était vraiment... Il était deux, trois gars à faire ça, puis c'était écœurant. Là. C'était, on faisait tout ce qu'on voulait avec ça. C'était le fun.
Mais justement, donc, maintenant, on a le jeune Pierre-Luc Foisy.
Oui.
Qui joue à des jeux, notamment des jeux 6-bit, ça le marque. Et comme, je veux faire des jeux vidéo quand je vais être plus grand. Mais la question après ça, c'est ton premier emploi dans le domaine du jeu vidéo. Comment est-ce que tu as réussi à mettre le pied dans la porte et à finalement réaliser ton rêve d'enfance à 5 ans de travailler dans le jeu vidéo?
Tantôt, tu as dit mon enfance. Je vais juste remonter un peu là, parce qu'après l'Atari, quand même, mes parents n'ont jamais voulu m'acheter une console en passant. Puis il a fallu que je me fasse voler mes économies à la fin des années 80, que je faisais des économies pour m'acheter une Nintendo 8-bit à l'époque, la NES. Puis il a fallu qu'on se fasse voler, puis le voleur avait juste volé des sous. Puis les seuls sous qui traînaient dans la maison, c'était les miens qui traînaient sur mon bureau pour m'acheter une NES. Fait qu'on s'est fait, je me suis fait voler, fait que j'avais de la peine. Puis ce Noël-là, ben c'est là que j'ai eu ma première console, une Nintendo de mes parents. Ça, c'est, je m'en souviens, c'est le plus beau... En plus, la boîte, je l'avais vu, la boîte dans la cave, était emballée. Puis ma mère m'avait dit, c'est des draps pour ta sœur. Elle a commandé, on lui donne des draps, puis tout. Puis je dis, correct. Mais moi, j'étais sûr que j'aurais pas de console. Fait que j'avais eu la Nintendo 8-bit. Juste pour revenir un peu là-dessus, ça. Je suis un émotif.
On va remercier le voleur qui t'a permis d'avoir une Nintendo.
Oui, c'est ça. Parce que sinon, j'avais pas encore les sous. J'avais juste, 60$, 70$. Mais à l'époque, c'était gros, on s'entend. Puis, fait que c'est ça. Puis après ça, ben, j'ai eu la. Juste montrer un peu l'évolution là, sur ce que j'aime, oui, parce qu'il y avait aussi en même temps la Genesis qui démarrait. Puis ça aussi, c'était pareil. Je voulais avoir la Genesis. Fait que j'avais convaincu mon père. J'ai dit, papa, j'ai 100$, mais pour le restant, j'ai dit, lui il a un garage, donc un garage à son compte. Fait que j'ai dit, je vais te payer le reste en temps. Tu sais, je vais aller travailler les fins de semaine. J'avais 15 ans, là, ou 14 ans, je me souviens plus. Fait que, puis il m'avait avancé de l'argent. Fait que j'avais eu le Mega Drive, ou la Genesis, en tout cas, peu importe pour moi. Là. Puis ça, j'ai trippé là-dessus. Altered Beast, pour moi, c'est un bon jeu. Parce que c'était...
c'est très courageux de dire ça.
Oui, je sais. Je vais me faire... je vais m'en faire des menaces sur LinkedIn ou je sais pas quoi. Ou sur mon Facebook. Mais bref. Mais je pourrais aussi dire que Phantasy Star 2 est mon premier grand RPG que j'ai fait. que j'ai fini. Puis ensuite de ça, il y avait aussi la TurboGrafx. Parce que ça, j'avais pas les moyens d'acheter, mais que je la voulais aussi. Je la ziotais pas mal, la PC Engine pour le reste du monde. Puis ça, je ne l'ai jamais eu. Puis je l'ai regretté toute ma vie parce que je n'ai jamais réussi à l'avoir, même quand il a bazardé à la fin dans les Radio Shack en Amérique du Nord. J'ai jamais réussi à l'avoir. Puis ça, je la regardais. Bunks, pour moi, c'était excellent. Mes amis l'avaient, puis je jouais à ça aussi. Puis je jouais aussi à Legendary Axe, Key Courage, tous les shooters, Blazing Lasers. Il y avait ça. Puis ensuite de ça, il y a eu la Super NES. Puis en même temps, la Super NES, il y avait ce qu'on appelle la Neo Geo.
Oui, tout à fait.
Puis la Neo Geo, ça l'a tombé pas mal dans mes cordes.
Néanmoins, le prix était assez outrageux.
Autant par l'inaccessibilité de la chose. Puis ça, c'est une autre affaire. Je me suis mis avec un de mes amis pour qu'on poule ensemble l'argent. Fait qu'on a mis chacun 300$. Elle était en vente à une place à Granby. Elle était usagée. Puis elle venait avec deux jeux. Puis c'était la Gold Edition. Puis on l'a acheté à deux. Puis la première fois qu'on met Baseball Stars, la cassette ne marchait pas. J'étais Je pleurais pas, là, mais j'étais vraiment pas fort.
J'imagine le choc.
J'étais pas content parce que l'autre jeu, c'était Blue's Journey, qui est un genre de Mario Ripoff qui était bien, mais cute, mais tu sais, tu joues deux, trois fois, puis c'est fini. Là. Puis ça, j'avais été très déçu, mais la Neo Geo, ça m'a marqué parce que j'en ai encore. Fait que, tu sais, je continue la collection depuis ce temps-là. Puis, mais c'est juste pour vous dire que la 16 bits, ça m'a tout le temps branché, parce qu'il y avait des concepts intéressants, des angles là-dedans, à savoir qu'est-ce qui était bien.
Ce que j'ai apprécié, parce que souvent, on a tendance, quand on parle aux gens, je n'irai pas entre autres notre merveilleux producteur, Patrick Tellan.
Bien aimé.
Bien aimé, tout à fait. Tu sais, t'avais toujours le camp un peu Sega ou Nintendo.
Oui.
Ça a été un peu ça, parce que rares étaient les gens qui avaient le qui voulaient ou qui étaient intéressés par les deux consoles. Moi, j'étais comme toi. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir les deux consoles. Mon père, j'avais pas l'argent pour acheter une Neo Geo. Non. Mon père, qui aimait beaucoup les jeux d'arcade, avait acheté une Neo Geo avec un paquet de cassettes. Éventuellement, on a même eu un Neo Geo CD, fait qu'on avait revendu le Neo Geo cartouche pour acheter un Neo Geo CD à la place. Donc moi, j'ai un peu la même expérience que toi, vraiment d'avoir pu goûter à la merveilleuse diversité et aux classiques aussi bien de Nintendo que de Sega. Effectivement, bien évidemment, ça a marqué beaucoup ma culture vidéoludique. Et éventuellement, bon, je suis allé sur le PC, et là, ça a été un autre champ de découverte de style de jeu qu'il n'y avait pas sur console. Et je pense qu'il y a une certaine richesse à avoir l'opportunité, du moins, de toucher un peu à tout. Mais
d'être curieux.
C'est pas donné à tout le monde.
Non, mais d'être curieux, parce que tu vois, les PC, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai, à la même époque, au début des années 80, ma mère a dit « T'auras pas de console, mais je vais t'acheter un VIC-20, un Commodore VIC-20. »
Ah, ben oui.
Fait que moi, la première fois que j'ai fait, premier truc que j'ai fait avec le VIC-20, c'est ouvrir les livres, puis il y avait des livres de Basic, je pense, ou du Pascal, je me souviens plus c'est quoi le langage, là, ça dit Basic, je pense. Puis, tu sais, tu t'écrivais pendant deux lignes pour avoir, ensuite, tu faisais Enter, puis t'avais produit un son. Bip, 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 bip. Puis, ça, je me souviens, puis là, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Ça fait que ça, c'est juste pour renforcer le fait que je vous disais que, tantôt, qu'en voyant un jeu, je savais qu'est-ce que je voulais faire, mais ça, quand je savais que je pouvais créer des sons, pour moi, c'était comme, OK, c'est ça de la programmation. C'est mon premier contact avec le développement de jeu, c'est les livres de Basic du VIC-20 pour faire, tu sais, sur trois pages pour essayer de faire, genre, aller une bille de gauche à droite à l'écran.
C'est ceux qui utilisaient les cassettes audio pour
aussi,
sauvegarder.
Aussi.
Moi, j'avais celui-là que j'avais.
Ouais.
J'avais fait un petit shooter bidon, genre à la Galaga, là, mais qui crachait. Fait que,
bravo.
Non, mais c'est parce que t'avais littéralement le code pour refaire le jeu. Fallait juste que tu le rentres à bras.
Mais t'avais des livres, hein?
T'avais dans le livre, c'est ça. J'avais pris le livre, puis j'avais fait exactement le genre copier, quoi.
Puis dans les places de magazine, il y avait ça. Tu pouvais acheter un livre. Puis là, c'était juste du code, là. C'était comme, ah, fais tel jeu. Puis je l'avais fait. Il y avait un genre de battleship, je sais pas quoi, là, un truc de bateau. Là, ça. Le graphique était super beau. Le dessin était beau, je vais faire ça. C'était nul, mais c'est pas grave. C'était juste le fun parce que tu te trompais à une place, mais t'avais pas de debugger. Là. Fait que tu savais pas si t'étais trompé, là, la virgule ou le point-virgule. T'étais pas mal. T'étais...
Ah non, c'est pas
que tu cherches longtemps. Puis là, moi, je savais pas comment sauvegarder au début. Fait que je réécrivais tout le programme à chaque fois. Hey, j'avais 8 ans.
Hey, c'est bien, ça garde
occupé. Puis je comprenais pas l'anglais. Fait que tout allait bien. Tout allait bien.
Non, j'avoue que c'est une expérience qui était assez particulière. C'est fallait vraiment aimer, être attiré par ça pour passer du temps à recopier des trucs. Des fois, tu comprenais absolument pas ce que ça voulait dire, mais tant que ça faisait quelque chose à l'écran après, t'étais content.
Exactement. Puis après ça, ben, est venu le temps des 286 là, d'IBM, puis tout. Là. Fait que là, c'est là que j'ai. Là, je me souviens plus trop c'était quoi les jeux que je jouais, à part des petits jeux comme Pac-Man ou le Démineur, mais à peine, non, même pas, il n'y avait pas Windows. Puis ensuite, c'est vraiment mon gros achat, c'est la 486 DX266 que je me souviendrai tout le temps. Là.
Premier ordi.
Ouais, où est-ce que ça là, je pouvais rouler Doom, puis je pouvais jouer à toi à Wolfenstein, Duke Nukem, toutes ces affaires-là. Là. Puis il y avait aussi Knights of Temple, je ne sais plus c'est quoi, là, mais un RPG avec, disons, en cartoon, avec des filles qui avaient des attributs assez osés. Puis c'était...
Ah, c'est lui, je m'en souviens pas, tu vois.
Knight of Centaur, je pense. Ouais, Knight of Centaur, c'était excellent. Puis c'était merveilleux, j'adorais ça. Parce que là, j'avais un lecteur CD-ROM, hein. Puis je m'étais même acheté un lecteur SCSI, lecteur pour copier mes jeux de PlayStation 1 à l'époque. En tout cas, bref, là, on est rendu en 98, mais peu importe.
Mais donc, vraiment, là, t'as...
Mais tu vois, j'ai touché à tout.
Le spectre complet, là.
Oui.
En grandissant.
C'est ça.
Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on va prendre une courte pause et ensuite, on va parler de ton premier emploi dans le jeu vidéo. Oui. Puis justement, l'époque GBA, tu vas nous faire un peu découvrir ça. Donc, déjà, on vient de finir de manger la poutine. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon cher Pierre-Luc?
C'était excellent.
Petite critique gastronomique.
Mais faut dire que moi, je suis déjà un gars facile pour m'attirer avec du manger. Alors.
C'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'on t'a réussi à avoir l'émission. Là. C'est...
Mais j'ai répondu assez vite à notre bien-aimé Patrick quand il m'a dit que c'était le truc de poutine à deux. C'est vrai que j'ai répondu vite. Fait que Patrick acquiesce dans le coin. Mais oui, sans niaiser, elle est bonne. C'est Mexico, là, les petits piments forts, là, une fois de temps en temps, ça rehausse le goût. Je pense que la prochaine fois, je vais peut-être demander s'ils n'ont pas de la sauce, de la hot sauce qui traîne en arrière pour rajouter un peu de spice.
De piquant.
Oui, des épices.
Parlant de piquant, allons dans le vif du sujet.
Oh my God.
Hein, oui, belle transition. En parlant donc de ton début dans l'industrie, donc tu l'as mentionné un peu au début, je pense que tu as commencé comme testeur.
Oui.
Est-ce que tu peux me raconter un peu où, quand, comment? Comment est-ce que tu as percé, mis ton premier pied dans la porte?
Oui, je vais plus commencer par le qu'est-ce qui s'est pas passé.
Ben, parfait, allons-y.
En 98, Ubisoft, ça fait pas longtemps qu'ils ont ouvert. J'ai eu Patrice Desilets qui est le créateur de Prince of Persia puis d'Assassin, on va dire. Puis finalement, j'avais envoyé mon CV. Puis un an après, genre, ils ont ouvert en 97, mais un an après, je reçois un appel. Là, on voudrait te rencontrer pour un poste de game design. Là, j'étais comme... Je pense que ça... En tout cas. Fait que là, je me présente. Ça va très bien. Les entrevues vont très bien. Jusqu'à temps que je rencontre, justement, Patrice. Et à cette époque-là, les questions, c'était pas très... c'était pas super organisé, les entrevues. Fait que c'était un peu flou. Puis je pense que vu que c'était un peu flou, ben finalement, grosso modo, j'ai pas eu la job. Fait que on est en 98, là, fait que là, on fast forward en 2001. Même 2000, la même situation se produit. Un petit studio québécois qui était à Québec, qui s'appelle Behavior à l'époque. Puis il cherchait des testeurs ou un lead testeur. Fait que là, j'ai dit, moi, je veux rentrer dans le jeu vidéo parce que, entre-temps, j'avais étudié en cinéma, j'avais étudié un petit peu en programmation. Tu sais, je savais pas trop quoi faire pour rentrer dans le jeu. Puis j'avais envoyé mon CV en 2000, quand il était à Québec. Et puis, j'en ai pas parlé, j'ai aucune nouvelle. Fait qu'un an après, moi, je travaille avec mon papa, qui a encore son garage. Puis je travaille avec lui, puis là, à un moment donné, j'ai un appel. Oui, M. Foisy, vous avez appliqué pour chez nous. Puis on aimait ça vous rencontrer. Fait que là, moi, je dis, je m'excuse, pour vous êtes qui et pour quel poste vous me parlez? J'ai aucune idée. Ça faisait un an. Puis là, il dit, ben vous avez appliqué testeur chez Bienvieux. Puis là, on s'appelle maintenant, ça s'appelle Artificial Mind and Movement, A2M. Puis on est rendu à Montréal, fait qu'on aimait ça vous rencontrer. Là, je dis, ah, OK. Fait que je fais pas ni un ni deux. Je me pointe à Montréal, je descends, parce que moi, mon père est en région. Puis je rencontre le lead tester là, Cédric. Puis lui, il m'a demandé un peu c'était quoi, comment je voyais le rôle de testeur. Puis je me souviens encore très bien que j'avais dit, bien, pour moi, un testeur, c'est quelqu'un qui ouvre des builds pas finis, puis qui regarde pour des bugs de collision, pour des choses qui fonctionnent pas bien, des mandats comme les loadings, affaires-là. Puis je pense que tout de suite après, j'ai eu l'offre parce que apparemment que j'étais un des seuls qui disait ça.
Tu savais c'était quoi
parce que les autres, après ça, j'ai su pas. Ensuite, la réponse des autres candidats, c'était plus comme, ben moi, j'ouvre l'armoire à jeux, je mets un jeu dans PlayStation, dans la console, puis je joue toute la journée. Puis je donne mon opinion. Alors, fait qu'à cause de ça, à cause que j'ai bien répondu, j'ai eu la job. Ça, c'était en 2001. Puis mon premier jeu que j'ai testé, c'était sur PlayStation 1, qui était Monster Inc., basé sur le film. Puis parce que A2M est une compagnie qui faisait des contrats, justement, avec des licences, puis on fait la traduction d'un médium vers le jeu vidéo. Ça a été mon premier contact. Puis ensuite de ça, c'était sur Game Boy Advance. J'étais testeur sur Ice Age, le premier film. Ubisoft était le publisher. Fait que là, j'étais content de travailler enfin pour Ubisoft, mais par la bande. À l'époque, ça m'en prenait pas gros. Puis ensuite de ça, après ce projet-là, il y a eu des opportunités en game design. Parce que quand j'ai dit Spider-Man tantôt, c'était en game design. Moi, ça créait des jeux. Mais je savais pas comment à l'époque, mais je pense que les idées ou les mécaniques de jeu, c'est ça qui me branche, ça. Fait que quand il y a eu une ouverture de poste sur l'équipe de Game Boy Advance chez A2M, puis ils m'ont fait faire un test de level design sur du papier quadrillé. Ils m'ont dit, voici, t'as des barils explosifs, t'as des barils pas explosifs, t'as des barils qui se pètent, t'as des barils qui se pètent pas, t'as une chèvre, elle peut sauter de tant de blocs, puis qu'est-ce que tu fais? Fait que je me souviens encore, là, j'ai fait un layout à mi-terne, là, vraiment dessiné à main comme les maps qu'on dessinait des vieux RPG à l'époque ou quand on voulait savoir c'était quoi les maps d'un donjon. Puis ça, c'est mon premier devoir que j'ai fait. Ça a passé. Ils m'ont donné un essai. Puis là, ben, le reste, ben, ça a marché parce que je fais ça depuis ce temps-là, du design. Là, mais c'est pour un projet de Game Boy Advance. Puis ensuite de ça, ben, j'ai switché à Game Designer, Level Designer sur les projets Game Boy. Donc les trois jeux, je vous ai parlé tantôt, en un an, de la conception au shipping. C'était...
Donc justement, parle-moi un peu comment ça fonctionnait. Parce que là, on est à l'époque de la PlayStation 1, comme tu le disais, on est à cette époque-là. Game Boy Advance, technologiquement, c'est une console portable, c'est une console moins puissante. On est plus dans justement les jeux de ton enfance, les jeux 16-bit. Comment ça marchait un peu d'être game designer, level designer, d'être développeur sur un jeu Game Boy Advance à l'époque?
Ça dépend quelle phase du projet que tu es rendu, mais disons qu'on va dire en conception, là, c'était beaucoup plus d'aller de prendre c'est quoi la licence du jeu, puis c'est quoi les mécaniques intéressantes que tu peux faire avec ça. Fait que c'était faire des prototypes. Donc, c'était s'asseoir avec un programmeur. Ça ressemble encore à ça aujourd'hui, là, mais avec un programmeur puis l'animateur 2D, puis de savoir un peu c'était quoi les mécaniques qu'on voulait faire, puis d'aller les brancher le plus rapidement possible dans l'engin pour être sûr qu'après ça qu'on puisse construire nos niveaux. Parce qu'à l'époque, construire les niveaux de Game Boy, c'était dans Photoshop, puis c'était pixel parfait, dans le sens que ce que tu plaçais dans mon écran de Photoshop, c'était exactement comme ça que ça allait être dans l'engin, puis sur l'écran que le joueur allait voir. Fait que si tes mécaniques étaient bonnes puis étaient bien rodées, ensuite de ça, tu sais, je veux dire, tu pouvais tout faire ton level design en fonction du game design que tu avais fait avant. Fait que ça, c'était. Contrairement à aujourd'hui, c'était pas aussi spécialisé, on était généraliste. Fait que je faisais le game design, le level design, puis je faisais même le placement de collectible pour les trucs cachés, puis les affaires-là, là, pour l'économie, le game. Économique designer, qu'on dirait maintenant. Fait qu'on faisait un peu de tout, là.
Il y avait combien de personnes dans le département de design sur un jeu Game Boy? C'était-tu une personne, deux personnes, trois personnes?
On était un département. On était comme une équipe et demie. Mais au début, on était... En design, il y avait moi, Eric. On était trois. On était trois, trois programmeurs, puis deux artistes. Deux ou trois artistes, je me souviens bien. Mais nous, on était... parce qu'on développait l'engin en même temps, là. Fait que l'engin Game Boy... On développait en même temps, c'est pour ça qu'il y avait trois ou quatre programmeurs, si je ne me trompe pas.
Pour tout ce qui est donc justement de la technologie pour que le jeu fonctionne.
La première année, pour tout mettre ça en place, on était, on va dire, une douzaine, 10 ou 11, ou maximum 12 dans le pic avec le gars de son. Puis ensuite, quand j'ai switché vers la 3D à fin de cette année-là, je sais que là, ensuite, le département de portable, eux autres, en Game Boy, ils étaient rendus 5. Okay. Parce que l'engin fonctionnait là. Fait que là, c'était un designer. Un programmeur, deux artistes, puis je sais plus trop qu'est-ce qui restait là, mais il était 5 en tout cas.
Parce qu'il y avait la technologie qui fonctionnait.
Exactement.
Je reviens un peu parce que je trouve ça vraiment fascinant, l'idée que le level design faisait en Photoshop. J'aimerais peut-être t'en savoir un peu plus là-dessus. Comment ça fonctionnait? Parce que comme tu l'as dit, ce que tu faisais, c'était pixel perfect. Donc ce que tu faisais dans Photoshop, tu mettais dans le jeu. C'est exactement ça que tu avais sur la version Game Boy, mais à quoi ça ressemblait à un niveau? Est-ce que c'était vraiment, tu faisais le niveau au complet, genre du début du niveau jusqu'à la fin du niveau, oui. Donc l'équivalent de plusieurs écrans en Photoshop? Est-ce que tu avais une façon de représenter ce que tu voyais dans l'écran à chaque moment?
C'est une bonne question, oui. Fait que finalement, un PSD, le format Photoshop, on se créait ça, puis mettons, on disait level 1, tu sais, level 1-1, ou je sais pas quoi. Puis ça, c'est on fait. Puis là, on partait. On faisait juste une ligne de collision au début. Puis on, avec les objets qu'on savait que c'était pour être des obstacles ou des destructibles. Mais Eric, le LD qui était senior avec moi, le game designer senior avec moi, lui, justement, il venait de d'autres compagnies qui avaient fait plus des trucs 2D. Puis il avait un bon œil un peu pour le UI. Fait que lui, il avait créé un tour, justement, qu'on plaçait, qui était vraiment un écran de Game Boy qu'on pouvait, tu sais, afficher quand qu'on voulait. On le mettait dans notre level, puis là, on pouvait savoir si ça fitait dans l'écran.
Ah, d'accord.
Fait qu'on le calculait en nombre d'écrans. Parce que aussi, ce qui se passait, c'est que pour un niveau, on savait qu'on avait on avait droit à tel nombre d'écrans.
S'il y avait des limitations techniques,
oui,
par exemple.
Il y avait des contraintes. Je pouvais, si je ne m'abuse, je ne pouvais pas faire un jeu, genre un niveau qui était genre 128 écrans de long, là, me semble. Mais je m'en souviens plus, là. Mais c'est un peu comme Mario Maker. Si vous avez joué à Mario Maker, il y a une distance maximale, puis c'est un peu ça le même principe. Puis une hauteur maximale, c'est un peu le même principe.
Ben justement, peut-être pour nos auditeurs qui, bon, ont pas eu la chance de connaître, développer sur Game Boy Advance, est-ce que quelque part Mario Maker, c'était un peu une représentation moderne de la façon dont tu travaillais à l'époque?
C'était pour moi, Mario Maker, c'est accessible.
C'est la version tool que tu aurais aimé avoir à l'époque, mais
exactement. Parce que, tu sais, en Photoshop, là, tu le sais un peu, là, je veux dire, c'est pas Photoshop qu'on a là, là c'était pas CS, machin chouette. J'avais plus lequel qu'on a à cette heure, là, mais c'était Photoshop 2 ou 3, je me souviens plus quoi, mais c'était archaïque. Là. Fait que là, c'était quand même fastidieux de se promener des fois, puis c'était long, mais on avait, tu sais, à l'époque, c'était ça qu'on avait, fait qu'on on pensait pas à ça. Puis quand on voulait faire des modes différents, par contre, une race en top-down view, mais là, ça prenait des modes à l'engin. Puis ça, c'est une autre façon de créer un niveau. Puis parce que là, on pouvait. Là, j'avais la possibilité de tiler autant que je voulais mon niveau, mais il fallait quand même que je sois capable d'évaluer le temps que ça allait prendre pour le joueur pour compléter le jeu, oui. le niveau. Fait que ça, c'était plus du essai-erreur.
D'accord.
Pour ce niveau-là. Là, pour cette... Puis ensuite, on a fait un autre aussi, un genre d'un Final Fight. Un gameplay où est-ce que c'était des... Écoute, genre, je vais sonner comme un fou, mais c'est un cheval qui faisait du kung-fu qui protégeait des vaches puis qui se battait contre des hors-la-loi. Alors, tout va bien. C'était basé
ça a l'air génial.
C'était basé sur le film Home on the Range, le dernier film 2D cartoon fait par Disney, qui n'était pas un chef-d'œuvre. Mais bref, pour moi, c'était le fun parce que j'ai designé un Final Fight, mais j'aime aussi les beat'em up. Moi, j'ai commencé trop vite dans ma carrière à faire tous les jeux que je voulais faire,
non, mais
qui étaient basés sur la nostalgie. Puis là, maintenant, ben là au moins, il y a un rétro gaming qui revient en force, là, le rétro gaming. Mais sauf qu'à l'époque, là, c'était comme... J'ai commencé puis j'étais là-dedans, donc j'étais super content.
Et justement, peut-être... Parce que là, on s'entend, comme tu expliquais, on monte à cette époque-là, il n'y a pas vraiment de formation de game design qui existe. Donc là, t'es testeur, tu passes ton test, tu deviens level designer, game designer, c'est un jeu Game Boy Advance. T'as appris sur le tas. Comment ça se passait un peu? Bon, tu travaillais avec un gars d'expérience. Est-ce que c'est vraiment genre un phénomène de mentorat où le gars t'expliquait comment ça fonctionnait et c'était un peu genre laissé à toi-même, puis c'est vraiment ta connaissance de l'histoire du jeu vidéo, tous les jeux que t'as joué avant qui t'ont servi. C'était quoi qui t'a vraiment permis de performer en fait dans cette position-là pour lequel tu as pu ne pas être préparé?
Effectivement. Ben, c'est assez simple. Moi, quand je suis arrivé là, j'étais. Les designers qui étaient en place, c'était des seniors, mais il n'y avait pas beaucoup joué, on va dire, au Super Nintendo. Il n'y avait pas une grosse expérience des jeux. C'est pour ça, tantôt, je voulais qu'on parle aussi de qu'est-ce que j'aimais quand j'étais plus jeune, parce que moi, je me suis beaucoup servi de ça pour savoir c'est quoi le feeling qui est le fun en 2D. Je crois que je le savais, je crois encore que je le sais. Mais parce que même quand je jouais à l'époque, en les années 90, j'analysais les jeux, tu sais, à cette époque-là. Fait que eux autres, moi, je crois que c'est un peu ça qui leur manquait. Ils étaient très théoriques. Il y en a un qui était. J'ai eu deux mentors. Mon lead game designer, Game Boy, c'est lui qui m'a montré comment faire du world. Puis, c'est lui aussi qui m'a appris comment bien vendre un concept, comment bien vendre un pitch, puis toute la patente. Fait que ça, on ne s'en cachera pas en design, c'est
grosse partie du travail.
C'est une grosse partie du travail à un certain moment. Puis ensuite de ça, Eric, ben ça c'était Jean. Puis Eric, lui, m'a montré toute la partie technique comme Photoshop, comme c'est quoi les outils qui peuvent te servir pour mieux monter des niveaux. Puis c'est lui aussi qui m'a montré l'engin en fin de compte. Là. Puis sauf que tu vois, les deux, ils étaient moins forts en placement de collectibles, ils étaient moins forts en mécanique 2D. Mais il était bon, genre, en Donjons et Dragons, ça allait bien. Tu sais, pour des règles globales, ça allait très bien. Fait que j'ai eu la chance qu'on se complétait hyper bien. Puis moi, j'étais un curieux de nature, fait que je leur posais des questions. Je dis, comment vous avez fait ça? Comment t'es arrivé à ça? Comment t'es arrivé à penser que ça, c'est une bonne mécanique versus ça? Comment t'es arrivé pour ce niveau-là à penser que là, un trou, où est-ce que tu mets un ascenseur qui fait, tu sais, je veux dire, qui déconne, puis que tu te plantes en bas, puis que là, t'es dans un truc caché, tu sais, comment, des affaires comme ça, tu sais, mon premier mandat, c'était de placer des Scooby Snacks dans un jeu de Scooby-Doo, tu sais, quand je suis arrivé, c'est mon premier travail que j'ai fait en design pur, là, sur Game Boy Advance, c'était de placer des Scooby Snacks, fait que des collectibles, fait que, mais moi, je suis basé sur ce que j'ai appris dans Mario, tu sais, comment placer les scènes, comment que les sous étaient placés, j'ai pris ça, puis je les ai placés, puis je me suis rendu compte que c'était... Il y avait
ça
pas...
marchait.
Non, mais ça marchait, mais il n'y avait pas ça. Il n'y avait même pas ça. Quand j'ai pris le jeu dans l'état où est-ce qu'il était, il n'était pas encore rendu là. Mais moi, j'ai pris. Moi, c'est une chance que j'avais joué avant. Une chance que j'avais au moins pris le temps de savoir qu'est-ce qui fait que c'est du bon placement et qu'est-ce qui n'est pas du bon placement.
Tu vois, moi, je vais rebondir là-dessus parce que je pense qu'il y a, pour les gens peut-être qui nous écoutent, qui sont intéressés à entrer dans le jeu vidéo, je pense qu'il y a deux très bonnes leçons dans ce que tu as ressorti. La première, c'est bien de jouer à des jeux, mais c'est encore plus important de le faire avec un œil analytique, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette mécanique fonctionne bien, pourquoi est-ce que on aime ce jeu-là, qu'est-ce qui nous accroche. Mais vraiment essayer de comprendre ce qui fait que ça fonctionne, parce que ça peut être extrêmement précieux le jour qu'on va devoir nous aussi faire un jeu similaire. Puis je pense que la deuxième leçon aussi, c'est d'être curieux, de poser des questions, de vouloir savoir comment les choses fonctionnent. Je pense qu'être une éponge, surtout quand on est entouré de gens d'expérience, puis d'apprendre le plus qu'on peut, puis d'après ça, d'appliquer notre propre bagage. Je pense que c'est deux très bonnes qualités quand on commence dans l'industrie pour très rapidement devenir un concepteur de jeu efficace.
Effectivement. Effectivement, parce que tu vois, comme je l'ai dit, pour moi, c'est ces deux personnes-là en design, ils m'ont influencé grandement, là. C'est drôle parce que c'est, comme je dis, c'est vraiment à cause qu'on se complétait super bien. Puis que c'était des gens qui avaient pas. Tu sais, on le voit souvent, des fois, là, des seniors qui veulent pas trop partager parce qu'ils veulent garder la connaissance. Là. Mais eux autres, c'est l'inverse. Là. C'était comme, oh oui, on va te dire, on va voir comment ça marche, puis let's go, puis tu sais, jette-toi à l'eau après à nager, tu sais. Ça, c'est vraiment le fun.
Je vais proposer, on va prendre une petite pause, on va boire un petit peu d'eau, se rafraîchir la gorge, et ensuite, on va continuer par les. Plus du passage à la 3D, puis un peu de voir comment est-ce que tu as vu l'industrie du jeu vidéo évoluer depuis tes débuts sur Game Boy Advance jusqu'à aujourd'hui. Donc Pierre-Luc, on a pris un petit peu d'eau histoire de nous rafraîchir le gosier. On a parlé de tes débuts, petites équipes polyvalentes, tu fais du level design, tu fais du placement de collectibles, tu fais des mécaniques de jeu... sur du 2D, mais éventuellement dans ta carrière t'as été vers des plus gros studios, des plus gros projets, t'es passé dans des productions en 3D. Comment est-ce que t'as vu vraiment la différence entre tes débuts sur des plus petits projets avec des plus petites équipes, puis ensuite vraiment ton arrivée peut-être dans des plus gros studios sur des plus grosses structures? Comment est-ce que ton métier de game designer a changé entre les deux?
Après A2M, j'ai été chez Ubisoft, puis même à l'époque j'ai commencé sur PSP, Sony PSP. Puis déjà là, chez Ubi, quand tu rentrais là, c'était beaucoup plus scindé les métiers. Donc, tu n'étais pas un designer, tu étais un level ou un game designer. Puis moi, j'étais rentré comme level designer. Puis je me suis rendu compte que déjà là, ben, il y avait beaucoup de gens qui venaient des plus grosses prods à l'époque, qui étaient Prince of Persia, qui étaient déjà plus spécialisés. Puis il y avait déjà une mentalité genre level designer fait les levels, puis applique ce que les mécaniques de game design. Fait que ça, au début, ça m'a un peu... déstabilisé, parce que moi j'arrivais, comme on a vu tantôt, j'arrivais d'un mode parce que je pensais à quelque chose, ben j'allais voir mon lead, puis on le faisait, tu sais, je veux dire, on se posait pas question, t'es-tu un level, t'es-tu une mission, t'es-tu un game, puis ça m'a un peu, pas choqué parce que je savais, mais ça m'a un peu déstabilisé dans le sens que c'était dur de savoir c'était où que je pouvais prendre l'initiative, c'est quoi que je pouvais penser, à comment que je pouvais... Parce que là, je montais des niveaux. Fait que là, en sachant pas nécessairement qu'est-ce qui se passait en game design, comment je fais monter un niveau à ce moment-là? Puis ça, c'est un beau défi, là. Ouais. Mais c'était Star Wars. Fait que là, ça, pour pallier à ça, c'est que moi, j'étais un buff. Tu sais, j'étais, on va dire une encyclopédie, mais là, on s'entend, là. Je suis dans les premiers échelons, là. On s'entend, là. Je suis plus que la moyenne, mais je suis vraiment en bas des experts, on s'entend. Mais j'étais quand même sur l'équipe le seul qui était un tripeux de... Tu sais, qui connaissait l'univers de Star Wars. Fait que j'ai proposé des missions, les mondes où est-ce qu'on allait faire les missions. J'ai aussi proposé des bouts d'histoire parce que moi, je connaissais qu'est-ce qui se passait entre les films puis qu'est-ce qui s'était passé dans les livres. Puis finalement, j'ai été chanceux, je suis tombé dans une équipe que finalement, ma connaissance était utile. Mais il y avait tout le temps comme en arrière de ma tête, comme quelque chose qui me tiquait. Je dis, il y a quelque chose que j'aime pas parce que je peux pas tout toucher à tout. Pis c'est ça qui m'amène ensuite de ça, plus tard, chez Activision, à Québec. Où est-ce que j'ai rencontré notre bien-aimé Patrick Tellen. Puis, il n'y avait pas de département de design quand je suis arrivé là. Fait que moi, la première affaire que je voulais faire avec mon directeur créatif, c'était de dire, ici, on va embaucher des designers. On n'ira pas vers des games ou des level designers. On va plus aller vers des gens qui ont des proportions, des potentiels à pour aller vers un ou l'autre. Ben dans le cas de notre bien-aimé Patrick, lui, il avait déjà une offre d'emploi avant que j'arrive, fait que je le prenais quand même. Fait que il allait nous rejoindre quand même, mais Patrick a quand même démontré des aptitudes plus fortes dans certains aspects du design que mettons, moi, c'était plus des systèmes, tu sais, mettons, je veux dire, ou en level design. Mais bref, tout ça pour dire que à l'époque, ce qu'on a fait, c'est qu'on a plus, il n'y a pas encore de spécialisation. chez Binox Activision. Mais à la fin, après 4 ans, par contre, on s'est rendu compte que là, l'industrie allait vraiment dans la spécialisation. Fait que là, à la fin, effectivement, on avait des gens qui s'occupaient plus du UI, plus de l'histoire, plus des boss fights. Là, on commençait plus à scinder les corps de métier. Puis moi, de mon côté, comment j'ai vécu ça? Je devais manager des gens. Donc, j'avais fait du recrutement et manager des gens. J'aime bien faire ça. Mais j'avais quand même des tâches de game design à faire. Il y avait des feux à éteindre, qu'on appelle. Puis vu que j'avais un passé qui touchait un peu de tout, je pouvais autant aider la vision level design que la vision game design. Fait que ça, ce qui avait changé en gros du passage, comme tu disais, à la 3D, c'est tout le temps la caméra. Quand tu passes de la 2D à 3D, là, la première affaire que tu remarques, c'est la caméra. C'est comment que la caméra est gérée, où est-ce que tu la mets, qu'est-ce que le joueur voit. Des fois, on pensait faire faire venir des ennemis, mettons, de la gauche par en haut, c'était cool, mais finalement, quand tu le mets en 3D, la caméra pointe tout le temps par en bas dans un third-person action adventure game. Fait que là, t'es dit, OK, ça marche pas. Comment qu'on fait? OK, là, est-ce qu'on force la caméra? Ah non, on enlève le contrôle au joueur. Fait que ça, c'était à l'époque, c'était beaucoup ça le défi, c'était la caméra. C'était la caméra 3D, là. Peut-être que toi aussi, c'était le même cas, Greg, là, mais...
Moi, j'étais chanceux. Moi, quand j'ai commencé, c'était sur Assassin. Il y avait déjà un certain langage qui a été développé avec d'autres jeux à ce niveau-là. Mais effectivement, je pense que même encore aujourd'hui, on a ce qu'on appelle dans l'industrie, du moins à Montréal, les 3C pour contrôle caméra, personnage, character. Parce que justement, la caméra se considère comme un élément clé de l'expérience de contrôler son personnage. Mm-hmm. Des jeux avec une mauvaise caméra, ça peut vraiment ruiner le meilleur des jeux.
Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. On en parle de ça, c'est chez A2M. On avait fait un jeu original qui était Scaler, qui était un genre de Super Mario. À l'époque, c'était comparé à Super Mario Sunshine, mais avec notre capacité à faire la qualité, on s'entend. Puis avec le budget qui était pas mal moindre. Puis je me souviens très bien qu'on devait constamment combattre la caméra pour qu'elle soit smooth, pour qu'elle soit belle, pour que ça soit... pour le joueur très accessible, qui n'est pas justement à contrôler avec le deuxième stick tout le temps la caméra, parce qu'on faisait un jeu pour enfants. Tu sais.
Oui.
Fait que ça, c'était plus ça. Pour revenir au truc des grosses équipes, moi, j'ai jamais... Je sais pas si c'est bien ou pas, là, mais j'ai jamais été comme dans un poste de game ou de level design spécialisé. Mais j'ai vu la spécialisation parce qu'il a fallu des fois que j'en ai mandat, mettons, à un designer de dire « Toi, tu t'occupes juste de la caméra. » Puis ça, c'était vrai pour un jeu chez Activision. Que finalement il y avait un designer que finalement tous les trucs qu'on avait à faire étaient en chantier. Puis là j'ai dit oh la caméra, j'ai dit on avait 3 ou 4 types de gameplay différents. J'ai dit ça me prend quelqu'un qui check la caméra puis qui pousse le programmeur à nous développer des bons outils, parce que sinon on va se faire ramasser avec les reviews là. On va avoir des scores très bas. Puis ça c'était mon premier contact avec la spécialisation, je te dirais. Ça c'est en 2006 ou 2007 là. C'était pas mal. Ça, ça a été mon premier contact avec OK, là, je vais spécialiser quelqu'un là-dedans. Mais finalement, l'autre projet d'après, il était déjà plus caméra designer. Fait que je sais pas si ça a marché bien gros, là, mais pour le projet, c'était payant d'avoir quelqu'un dédié. Tu sais.
Et est-ce que c'est de ton point de vue et de comment tu as vu arriver ça? Parce que c'est intéressant, tu disais quand tu as été chez Binox, il n'y avait pas de département, il n'y avait pas de spécialisation, mais c'est arrivé au fur et à mesure. Est-ce que c'est la complexité des projets, la taille des projets? Est-ce que c'est juste parce que. Certaines personnes ont naturellement des forces dans un domaine, donc c'est mieux de les spécialiser. De ton point de vue, qu'est-ce qui a vraiment amené cette spécialisation? Parce qu'il y a des studios, ou encore aujourd'hui, qui ont juste des designers. De mémoire, je pense que Naughty Dog, ça commence à changer, mais pendant des années, Naughty Dog n'avait pas de game ou de level designers. Il y avait des designers, tu faisais les deux. Tu faisais des maps, des missions, puis tu pouvais faire des mécaniques.
Effectivement. Ce qui m'a amené à... dans le cas du gars de caméra, là, Étienne. Allô, Étienne. C'est parce que c'est une nécessité. C'est juste une nécessité.
Il y avait un besoin.
C'est parce qu'on avait vraiment 3 héros différents avec des types de comportements vraiment différents. Puis il y en avait un qui était plus une race, il y en avait un autre qui était plus un God of War, puis il y en avait un autre qui était plus un genre de puzzle, un blob là, qui se promenait, là, qui se collait ses murs. C'était pour un caméra designer, c'était pas genre fais juste une caméra à la troisième personne. C'est fais-moi une caméra de course, fais-moi une caméra d'un blob qui se colle ses murs horizontal, vertical, puis tout ce que tu veux, puis qui flippe. Puis fais-moi une caméra de God of War, où est-ce que God of War à l'époque venait de sortir, puis on était comme on tombait des nues à l'époque. Là, c'était comme c'était la meilleure caméra ever. C'était la plus smooth. Puis on avait, un character qui lui se battait comme ça. Fait que lui, c'était un très beau défi. Fait qu'il a fallu plus que je le vende sur cet angle-là pour son premier mandat en game design. Parce que je venais d'embaucher la personne, je venais d'embaucher, elle sortait de l'école. Fait que bref.
Courageux, tu t'as donné à quelqu'un sur l'école le mandat de faire des caméras.
Ouais, à l'époque. Mais à l'époque, tu sais, je me demandais pas genre le gars du senior, junior, intermédiaire. Je me disais juste lui, je fais-tu confiance, y a-tu un potentiel, oui ou non, peut-être. J'ai donné le mandat. Puis on était juste cinq designers, hein, je pense. Je regarde Patrick là, parce que notre bien-aimé Patrick était avec nous aussi. Puis mais c'est juste on était cinq designers. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte que ça nous prend quelqu'un qui travaille là-dessus, qui développe ça. Puis ensuite de ça, sur Spider-Man Shadow Dimension, là, c'est un peu le même principe. C'est que là, on avait 13 boss fights, on avait 12 niveaux. On avait 4 Spider-Man avec des habilités un peu différentes dans chaque. Puis là, il a fallu que je spécialise. Fait que là, il y avait un designer qui s'occupait juste des systèmes de combat. J'avais un designer qui s'occupait... Des designers qui s'occupaient juste des boss fights, ou presque. Puis d'autres qui faisaient plus le level design. Fait que ça, pourquoi... C'était des attitudes. C'est une question d'aptitude envers des dossiers versus d'autres. Puis moi, ça me prenait des binômes aussi parce que c'était des équipes multidisciplinaires qu'on faisait.
Mais il semble aussi, tu vois, tu prends l'exemple de Spider-Man, là, clairement, on parle d'un jeu beaucoup plus complexe que les jeux que tu faisais au début sur Game Boy Advance. Là, ouais. On parle de 12 boss, 13 boss, plusieurs niveaux, 4 personnages différents. Il semble qu'il y a un peu aussi juste le fait que plus les jeux sont complexes, puis on a besoin de fragmenter en fait le travail et le design et de mettre des gens qui sont dédiés à ça tout au long de la production.
Tout à fait d'accord, parce que tu vois, l'équipe qui s'occupait du système de combat devait aussi s'occuper de l'économie. Alors, c'est quoi qu'on ramasse? Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi l'arbre d'habilité, là, le skill tree qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce que ça donne? C'est quoi la rejouabilité à la fin du jeu? Les contrôles? Puis moi, mon rôle là-dedans, c'est de passer au travers de tous ces pods-là, puis de faire le suivi, puis faire de la validation, je vous dirais, ou éteindre des feux, qu'on dit si bien ici au Québec. Mais éteindre des problèmes qui popaient, là, ou prendre des décisions ou des calls pour être sûr que ça se reflète dans la direction du jeu qu'on voulait faire.
Le truc que tu disais, je trouvais intéressant, c'est parce que, bon, éventuellement, t'es vraiment allé plus à une position de lead game designer, donc à vraiment superviser des designers sous toi. Il semble que le fait que tu étais un peu plus polyvalent, un peu plus généraliste, que tu connaissais aussi bien le level design que le game design, t'as mis en bonne position de pouvoir faire ça parce que ça te permet peut-être de pouvoir justement régler différents problèmes, probablement aussi assigner les personnes aux bonnes tâches. Ouais. Est-ce que tu penses que ça a été un atout pour toi d'avoir ce côté-là un peu de touche-à-tout?
Ben, définitivement, parce que on se le cachera pas, y a d'autres... j'ai fait d'autres projets aussi à d'autres places, puis quand t'arrives comme lead dans une équipe qui est déjà montée, les gens, ils vont tout le temps te challenger. Ils vont tout le temps savoir, es-tu crédible, ce gars-là? Est-ce qu'il connaît son affaire? Puis tout ce bagage-là, comme qu'on a vu là, en Game Boy, sur PlayStation 2, sur Xbox 360, sur PS3, sur la Wii. La Wii aussi, c'était un beau défi en design, ça. Puis mais tout ça fait que quand les gens posaient des questions, ils me disaient, quand tu arrives dans une équipe, ils te disent, ça ici, qu'est-ce que t'en penses? Puis que là, tu commences à argumenter ou dire oui, ça ici c'est bien pour telle raison, ça si c'est moins bien, je suggère peut-être de faire tel truc pour telle raison. Ben là, la personne suite voit que OK, le gars a déjà fait du level design, du game design, il sait c'est quoi, puis il est pas, il a pas le syndrome de l'imposteur qui se met entre le lead et son équipe. Mais là, je pars dans une équipe, c'est arrivé parce que j'ai monté des équipes, mais j'ai aussi arrivé comme un lead dans des équipes déjà faites. Puis des fois, dans des projets où est-ce que ça allait déjà pas bien, donc le moral était pas très bien, c'était pas très haut. Ça c'est arrivé pas souvent, mais c'est arrivé une couple de fois dans ma carrière.
Tu mentionnais la Wii, puis je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, je veux dire, t'en as vu des nouvelles consoles, t'en as vu des changements technologiques dans ta longue carrière. Justement, quand t'as vu par exemple l'arrivée de la Wii qui a amené un système de contrôle complètement différent, comment est-ce que t'approches des changements de paradigme dans le jeu vidéo assez significatifs qui obligent vraiment à approcher le jeu d'une manière différente? Comment est-ce que toi t'approches ça en tant que game designer ou juste comme concepteur, lead concepteur de jeux vidéo?
Premièrement, tantôt tu l'as dit, il faut être curieux. Ben, je l'ai dit aussi. Mais on l'a dit, nous l'avons dit, ils le disent. Alors, il faut être curieux. Fait que pour être curieux, ce que j'ai fait, c'est que on fait un peu un classique. Là, c'est que tu regardes les jeux qui existent déjà sur la console. Tu regardes qu'est-ce qui est bien. Tantôt, tu as parlé aussi de regarder les jeux, qu'est-ce qui est bon dans les jeux, mais moi, ce que j'ai appris en faisant des jeux pour enfants, c'est d'aller voir qu'est-ce qui est pas bon. Fait que des jeux, tu sais, souvent, on ridiculise un peu les jeux pour enfants, que c'est n'importe quoi, mais moi, j'avais un malin plaisir à aller ouvrir un jeu, aller rouler un jeu, l'essayer, même s'il était coté 3 sur 10, puis de dire, il faut que je trouve quelque chose qui est bon là-dedans. Parce que dans n'importe quel jeu, peu importe, il y a tout le temps une idée, il y a tout le temps quelque chose que tu peux dire, ça, bien fait, ça aurait été bon, ou c'est mal fait, mais pourquoi c'est mal fait? Analyser pourquoi c'est mal fait. Fait que quand tu designes un jeu après, tu as des meilleures bases pour te dire, si je fais ça, ça peut être bon, parce que je sais que si je fais ça, ça, je l'ai vu ailleurs, puis c'était pas bon. Fait que c'est pas juste d'avoir de savoir qu'est-ce qui est bien dans un jeu, mais c'est de comprendre qu'est-ce qui est mal, ou qu'est-ce qui est pas le fun, ou qu'est-ce qui est mal adapté, pour être capable de le designer mieux quand tu fais ton jeu. Puis ça, c'est tout un exercice. C'est un exercice que tu fais, mais moi c'est pas genre, je me lève pas le matin et je me dis je vais faire ça. C'est juste que moi, par défaut, si je joue à un jeu, je fais ça. C'est ce que je le savais pas quand je jouais à mes jeux 16 bits dans le temps, mais je le faisais. T'sais, analyser un jeu pour faire un speedrun, selon moi, je pense que c'est une forme d'analyse pour être capable ensuite de battre ton temps. T'sais. La Wii, c'était être curieux, puis je me souviens très bien, c'était faut être très ouvert, parce qu'à un moment donné, c'est OK, c'est des swings de manette que tu fais là. C'est OK, là, je sais pas comment dire ça en français, mais bref. Faire aller la manette de gauche à droite, en haut, en bas, il y avait du son dans la manette, il y avait du force feedback dedans. Comment tu fais pour faire des mouvements qui sont pas trop fatigants pour le joueur? Là, on s'adresse à un public enfant à cette époque-là pour les projets qu'on avait à faire, avec notre bien-aimé Patrick encore. C'était tout le temps c'était beaucoup de discussions, si je me souviens bien. Là, c'était genre moi j'ai vu tel jeu, t'as-tu vu qu'est-ce qu'ils ont fait? Tel jeu est sorti, ça marche bien, les contrôles répondent pas bien là-dessus. Il y avait Red Steel à l'époque, que Ubisoft faisait un jeu d'épée que moi, je voulais aimer. Je désirais ardemment aimer ce jeu, mais finalement, on pouvait pas parce que les contrôles étaient trop... étaient pas assez responsive, ça répondait pas bien.
Assez précis, manquait de précision.
C'est pour ça que la Wii U... La Wii machin que tu pluguais ensuite, la Wii Motion qui était sortie...
Qui rendait plus de précision.
Ça, c'était bien pour, Red Steel 2, c'était mieux. Déjà, c'était mieux. Fait que, bref, il faut que tu sois très ouvert d'esprit. Puis moi, je vais t'amener sur un autre truc. C'est que j'ai fait un jeu de lancement pour la Wii U qui s'appelle Batman. Armored Edition, Arkham City Armored Edition. Puis ça c'était ma première c'était ma vraie expérience de une nouvelle plateforme, une nouvelle façon de designer un jeu parce qu'il y avait une tablette qui venait avec. Puis ça, encore une fois, je me suis encore servi de ma grande curiosité puis mon expérience aussi en level puis en game design pour savoir qu'est-ce qui ferait que Batman serait le fun à jouer avec une Wii U, tu sais, avec le gamepad. Puis ça a été un méchant défi, mais ça, j'étais tout seul. Ça, on a une équipe de 15, parce que on prenait essentiellement Arkham City, puis on rajoutait... au début, on rajoutait même pas d'armure. Au début, c'était juste comme, on fait les gadgets, puis peut-être qu'on va inventer un ou deux gadgets pour Batman. Puis, on avait aussi le gamepad qui, lui, s'updatait en temps réel. Mais tu sais, on sait que Nintendo développait la console. Fait qu'on recevait à chaque 2 mois, on recevait un nouveau kit. Des fois, le gamepad, elle avait vraiment changé. Tu sais, les deux sticks, au début, ils étaient collés sur le... Tu sais, il était comme collé un peu à la 3DS, si tu veux, là, collé sur le pad. Puis ensuite de ça, il était surélevé. Ensuite de ça, les boutons Start On changeaient de place. Là, des fois, le D-pad, il était mal positionné. Au début, c'était pas le fun du tout. Puis au début, les oscilloscopes qui faisaient... Tu sais, parce que tu pouvais prendre la gamepad puis tu pouvais regarder partout. Oui. Ben, au début, ça fonctionnait vraiment pas bien. Fait que c'était difficile de voir qu'est-ce qu'on... Il fallait voir outre les problèmes hardware, puis être capable de dire ça va être bien, ça va être moins bien, ou on va essayer ça. Puis parce que tous les gadgets, moi j'avais dit, ben tu peux lever ton gamepad, puis tu peux contrôler en temps. Tu sais, tous les gadgets qu'il faut que tu vises, là.
Ouais.
Que ça, tu pouvais vraiment prendre le gamepad, puis vraiment comme faire un sniper gun, puis viser avec ça. Avec ça, et aussi les scans qu'on avait à faire. Les scans pour les scènes de crime que j'appelle, là. Oh oui. Ça aussi, il faut que tu scannes avec le Wii U Gamepad. Mais ça, c'était vraiment un exercice le fun. Ça a été un de mes plus beaux projets parce qu'on n'était pas gros. Puis c'était pour un launch title, même si malheureusement la Wii U, ça n'avait pas été le succès escompté. Là. Mais j'ai adoré ça. J'ai été chez Nintendo pour leur présenter la démo qu'on voulait faire parce que Nintendo voulait nous avoir sur leur show du E3. Il a fallu que j'aille à Nintendo, j'ai rencontré le japonais, le Miyamoto de service que j'appelle, là, parce que lui représentait Nintendo au Japon. Puis il fallait que je me présente la démo que si on va au E3, on faisait. Donc c'est moi qui avais fait un peu le level design de ça. Puis j'ai visité Nintendo, j'étais comme juste là, j'étais content. Là.
C'est déjà une belle expérience pour quelqu'un qui a grandi un peu avec leurs jeux, c'est clair.
Ouais, c'est ça. Ça, j'adorais ça. Puis c'est toute l'expérience de développer, de faire du marketing, puis comment. Puis après ça, l'armure, c'est on a eu l'idée ensuite pour l'armure parce qu'à un moment donné, quelqu'un, ben notre big boss, là, Martin, nous avait dit hey, Pierre-Luc, qu'est-ce que. Dit, OK, là, on a un budget, puis là, je pense que dans le budget, on a de l'espace pour faire un feature de gameplay pour unique à la Wii U. Qu'est-ce que tu ferais? Fait que là, il m'a donné 2 jours pour y penser. Je suis arrivé avec 3 propositions, dont l'armure avec le genre de Rage Mode que j'appelle, là, qui se régénère, que tu emmagasines l'énergie puis tu peux après ça partir dans une Furry, ou un Rage Mode. Puis, c'était classique, mais il fallait quand même que ça respecte des contraintes de temps puis de budget qu'on avait. Et de manpower que j'appelle, de l'équipe, la force de frappe de l'équipe, on avait un animateur, on ne pouvait pas aller loin avec ça. Puis sans 3D encore, puis Batman, il y avait quand même une certaine qualité qu'il fallait respecter. Fait que si on rachetait quelque chose, on ne pouvait pas juste dire ah oui, c'est fait à moitié. Il fallait vraiment aller all the way. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Parce que ça m'a permis de me challenger aussi en game design encore une fois, d'amener quelque chose, puis de donner une petite épice à un jeu. Fait que moi, ce jeu, je suis content parce que tout ce qui est design là-dedans, je peux dire oui, j'ai soit que c'était le gars de son qui donnait des idées, qu'on rajoutait des trucs, comme le hacking minigame, ça c'est un. J'ai fait ça avec Tobias, le gars de son, où est-ce qu'on était les deux, puis on s'est donné des idées, puis à un moment donné, on est arrivé avec ça. Mais tu sais, c'est vraiment un effort d'équipe, puis de design, puis en plus, ben je peux tout dire que j'ai touché un peu à tout là-dedans. Ça, j'ai bien aimé ça.
C'était un peu une belle façon de boucler la boucle, encore que c'est pas la fin de ta carrière, loin de là, mais je vois un peu le côté petite équipe, projet sur une console de Nintendo, un petit côté portable avec l'écran de la Wii U, un peu comme à tes débuts sur la Game Boy Advance. Écoute, on va reprendre une dernière pause, ensuite on va conclure l'entrevue si ça te convient. Pierre-Luc, on a fait un beau tour d'horizon un peu. On a vu ton enfance, ta découverte des jeux vidéo, ta passion pour différentes consoles. On a vu tes débuts, tes premiers pas dans l'industrie sur Game Boy Advance. Ensuite, ta carrière qui a progressé plus vers le management, vers les plus gros projets. Un peu comment est-ce que l'industrie du jeu vidéo a évolué à travers ça. Maintenant, pour conclure l'entrevue, j'aimerais bien aller un peu dans la spéculation, se projeter dans l'avenir. Avec toute ton expérience, ton bagage, toutes les nouvelles consoles, les changements technologiques, les changements même au sein du métier, de comment est-ce qu'on approche le game design, comment est-ce que tu vois un peu le futur du métier de game designer? Comment est-ce que tu vois potentiellement ça évoluer, que ça soit encore plus de spécialisation, que ça soit peut-être du game design dans d'autres domaines que purement du jeu vidéo? Est-ce que tu as des idées, des choses qui t'allument en ce moment ou qui te font rêver pour l'avenir?
Ben oui, présentement, moi, ce que je perçois dans l'industrie, même à Montréal, c'est que la grande spécialisation, je vais dire, des années, on va dire des années 2000, début 2010, commence à faire place plus à une généralisation, donc à des designers plus généralistes. C'est drôle, on en parlait même à midi là, dans un groupe partage chez Ubisoft, parce que des spécialistes, c'est tout en bon, mais dans certains trucs, mais... On perçoit un peu comme à l'époque du rétro gaming, parce que du gaming des 16 bits, parce que là c'est le rétro gaming qui est à la mode, mais des jeux un petit peu plus simples, puis plus comme donc les designers t'es pas obligé d'avoir un level designer qui ne fait que ça, mais tu peux avoir je constate un retour vers le game level design qui merge ensemble, si tu veux. Puis la seule place, par contre, il y a quand même des places que je vois encore des spécialisations, c'est comme un peu comme l'économie designer, qui avant faisait partie du game design, on s'entend, qui faisait partie de mes tâches. Quand je vois des free-to-play games, puis que je vois comment que c'est monté, parce que j'ai quand même participé à certains projets là-dessus, je me rends compte que mon meilleur ami à ce moment-là, c'était le economic designer, parce que lui, il savait quoi apporter, c'était quoi le nanane qu'il fallait qu'il montre aux joueurs pour être capable d'essayer de le faire dépenser dans son free-to-play. Puis ça a l'air de rien, mais ça change drastiquement comment tu designes. Fait que dans le futur, moi, ce que je crois, c'est qu'il va quand même avoir On va assister à peut-être un retour globalement de la généralisation, mais il va quand même rester des pans du design qui vont être plus spécialisés. Tantôt, on en parlait aussi en hors-onde, mais le UI, UX design, c'est pas tout le monde qui veut faire ça. Puis moi, j'en ai fait parce que ça faisait partie de mes tâches. Tu sais, moi, j'ai designé des HUD, designé des qu'est-ce que le joueur va voir. Tu sais, j'ai enseigné un cours d'interface et menu. Mais c'est pas à cause que je tripais là-dessus, c'est juste parce que là, il y avait cette opportunité-là d'enseigner, j'ai enseigné ça. Mais tu sais, j'ai vu que j'étais curieux, mais j'ai ouvert WoW, World of Warcraft, parce que c'était à l'époque, en 2007 ou 2008, c'était là, l'apogée, si tu veux, de ce jeu-là, que je pense. Là. Puis tout le monde jouait ça, puis tout le monde m'a dit, Pierre-Luc, si tu veux savoir c'est quoi un UI ou des menus qui fonctionnent bien, qui sont malléables, check ça. Fait, moi, curieux étant, ben, j'étais vers ça. Ben, mais ça n'empêche pas que même si tu es plus généraliste, si tu n'es pas curieux, comme on disait tantôt, sincèrement, moi, je pense que c'est j'ai fait aussi un petit talk dans la classe de ma fille là-dessus qui fallait que je parle de mon métier. Puis c'était un des trucs que je disais aux enfants. Je disais, si vous n'êtes pas curieux, c'est pas quelque chose, ça ne vous aidera pas dans la vie, ça ne vous aidera pas non plus dans le travail que moi, je fais, qui est de savoir qu'est-ce qui se fait ailleurs, comment c'est fait, puis pourquoi. Puis, avec ça, tu peux tout le temps ramener ça sur ce que tu vas faire. Fait que tu sois un généraliste ou un spécialiste, ça va t'aider. L'autre affaire que je vois aussi, c'est aussi tous les sports online, le e-sport. Ça, selon moi, ça va aussi changer la donne côté game design parce que tu ne designes pas du tout de la même affaire, mais pas du tout avec la même. Tu sais, du PVE, du PVP, c'est pas pareil. Moi, j'ai designé un peu du PVE, donc un AI director sur une des versions de Rainbow Six que j'ai jamais vu le jour, mais ça fonctionnait. Parce que c'était du PVE, mais à l'époque, on voulait pas, il n'y avait pas de PVP. Ben, du PVP, il y en avait, mais je veux dire, c'était dans Rainbow Six, on s'entend. Mais présentement, c'était pas du PVP avec du e-sport en tête, c'est ça que je veux dire. Là, maintenant, quand tu regardes Overwatch, là, je joue Overwatch, parce que je suis curieux. Puis je joue à Destiny 2, parce que je suis curieux, mais c'est aussi parce que j'aime les first person. Je me rends compte que pour arriver à ce degré de balancing-là, c'est pas du tout... C'est comme faire un Street Fighter. Fait que là, je suis en train de dire que c'est les gens qui ont designé ça, c'était des gens qui ont vraiment beaucoup regardé Street Fighter, qui est un jeu 16 bits des années 90, ou c'est des gens qui ont vraiment, tu sais, qui ont crafté quelque chose de vraiment unique, qui fait avec des règles de balancing sur un jeu de first person, où est-ce que tu as du e-sport là-dedans, où est-ce que tu as un mode de spectateur qui est hallucinant, parce que je l'ai essayé la semaine passée. Puis c'est tout est fait pour que ça renforce vraiment un peu comme les stades ou les arènes qu'on voit de football là, en Europe là, pour redonner ce feeling-là, mais avec les jeux avec des jeux électroniques. Là, on parle même, je pense, que ça soit aux Olympiques. Là, c'est à un moment donné, là, le e-sport.
Discussions,
mais
oui.
Non, mais juste le fait d'en parler, c'est quand même incroyable. Sincèrement, moi, en bon québécois, ça me flabbergaste.
Ça qui l'a pris il y a quelques années.
Oui,
hein?
C'est ça. Fait que ça, je crois que ça va changer la façon de faire du game design. Mais d'un point de vue, mais encore une fois, je crois que c'est généraliste. Parce que si tu fais mettons Overwatch, on prend Overwatch, là, mettons que moi j'aurais designé ça, ben je pense que j'aurais fait aussi les levels pour être sûr que ça fonctionne bien, que les powers puis leur temps de cooldown fonctionne bien avec les distances à parcourir dans les maps asymétriques que les autres ont faites. Tu sais. Je pense qu'il y a sûrement une équipe, des gens qui sont spécialisés là-dedans, mais je pense quand même que les game designers, il faut qu'ils soient ouverts à ça. Tu sais, il ne faut pas juste dire voici mes héros, allez level designer en paix et faites-moi un niveau. Selon moi, j'ai la conviction qu'ils ont fait leur truc, ils en ont parlé au level designer, ils ont checké ça ensemble, puis après ça, ils sont arrivés à un constat de dire si on fait une map comme ça, voici les constats, là, c'est trop long ou trop court, puis ton recharge time, ben, il est trop long ou trop court, dépendamment du niveau, comment il est fait. T'sais.
Et ça t'amène à mon point, parce qu'en parlant des jeux justement comme Overwatch ou comme Rainbow Six Siege, ouais. Maintenant, on a aussi des jeux qui continuent à être en développement. C'est fini l'époque où on finissait un projet, tous les game designers passaient sur le prochain. Maintenant, tu as des gens qui restent sur le live team pour continuer à faire des mises à jour, à faire du balancing, à réagir à ce que fait la communauté. Ça aussi, je pense que c'est quand même une nouveauté majeure. Là, c'est que potentiellement, bah, tu peux rester sur un projet pendant très longtemps puis continuer à travailler, à améliorer ton jeu.
La catchy phrase maintenant qu'on dit, tu sais, c'est le mot à la mode, c'est game as a service. Mais ça, on l'avait aussi à l'époque. À l'époque, on disait la rétention du disque. Tu sais, dans le sens qu'à l'époque, c'était on shippait juste des jeux en format sous support CD. Puis on disait qu'est-ce qui fait que les gens vont revenir jouer au jeu sur le disque. Tu sais, fait que c'était pour moi, c'est juste une évolution. C'est juste que maintenant, on est à l'ère du dématérialisé. Donc, c'est Game as a Service parce qu'on va provider, on va générer du contenu par des patchs ou par des DLC ou par des updates online. C'est faut la seule affaire.
L'autre chose peut-être que je voudrais avoir ton opinion là-dessus. On a vu dans les dernières années une explosion ou du moins un certain engouement pour le VR. Et beaucoup de gens annoncent que bon, la vraie révolution vidéoludique, ça va être la réalité augmentée. Deux médiums qui sont reliés aux jeux vidéo, mais qui, un peu comme tu parlais de la Wii, utilisent des langages complètement différents. Est-ce que tu vois aussi une genre de spécialisation où, par exemple, moi maintenant, je suis un designer VR ou un designer AI, de réalité augmentée, ou est-ce que tu penses que, encore une fois, on va plus avoir des généralistes, donc des gens qui peuvent faire des jeux consoles, puis des gens aussi sur d'autres supports, par exemple VR ou réalité augmentée?
Ben, je pense que il y a deux affaires. Dans un futur, je crois que quand les casques VR et tout vont devenir moins chers et plus accessibles, il va y avoir des gens qui vont, tu sais, comme tu disais tantôt, tu étais gâté, tu as commencé sur Assassin, mais qui vont commencer leur carrière, puis que leur premier mandat, ça va être de faire du game design sur un truc VR. OK, si on ne se le cachera pas, ça va arriver.
Ça va arriver.
Mais mettons, puis le deuxième point que je vais apporter, c'est moi, mettons, ou toi, ben, moi, je serais, quand j'étais sur Outlast 2, on s'est fait vraiment demander souvent, voir est-ce que vous voulez faire Outlast 2 en VR. Mais moi, j'ai fait des recherches avec les membres du studio. On a regardé qu'est-ce que ça allait prendre. On a regardé un peu, designé, je vous dirais, sur un tableau blanc quand même, voir qu'est-ce que ça prendrait vite, vite pour porter ça en VR. Même si moi, j'ai pas une spécialisation en VR, ben je savais c'était quoi. J'avais déjà utilisé ça. J'ai connu la VR à l'époque en 93, quand que c'était même pas en 30 frames secondes, puis que Duke Nukem, ça donnait mal à la tête, parce que t'allais dans un salon de VR, où je me souviens plus comment ça s'appelait. Pis,
ça a l'air louche.
Pis, oui, ça a l'air louche, mais c'était horrible. T'avais mal à la tête, là, mais c'était dégueulasse. Sincèrement, là, c'était la pire expérience ever. C'était comme le laser tag, mais avec un casque, puis t'as mal à la tête, t'as aucun sentiment, t'avais aucun feedback. Moi, ce que je pense, mais tu vois, même si j'ai jamais touché à la VR concrètement, je pense que j'en ferais, puis je connaîtrais. J'aurais des ficelles que je serais sur lesquelles tirer. Exemple, un de mes collègues, lui, c'est ça qu'il a fait. Il a fait Eagle Flight chez Ubisoft. Puis, il n'avait jamais fait de VR. Puis, Eagle Flight, c'est une expérience hyper smooth. Mais ça s'est pas fait. Les gens qui étaient dessus n'avaient aucune expérience. Se sont lancés dans l'aventure. Ils ont essayé des choses. Ils ont prototypé, comme qu'on sait. Puis, ils sont arrivés avec des décisions, design judicieuses, selon moi, qui fait que l'expérience est smooth. Fait que moi, je pense que dans le futur, il va y avoir ceux qui vont se joindre à nous, puis qui vont, eux autres, profiter de la vague de VR qui va être abordable. Puis il y a des gens comme nous, et les, je veux pas dire les dinosaures parce que c'est un peu plate de penser de se penser comme ça, mais qui eux autres vont grand. Tu sais, j'espère qu'on va évoluer, mais il faut que tu sois ouvert d'esprit. Si tu ne l'es pas, c'est oublie ça, là. Reste dans tes affaires, tu sais.
Non, c'est ça. Je pense que, comme tu l'as dit, la curiosité, ça veut dire que oui, il y a des choses à apprendre quand tu changes de médium, et quand tu vas vers le VR ou la réalité augmentée, mais au final, il y a aussi des leçons de game design, je pense, qui s'appliquent très bien dans tous les cas.
Puis il y a aussi un retour qui se fait, tu sais, avec le rétro gaming, j'en parle souvent, mais c'est parce que je remarque que les petites compagnies indie de Montréal, ils se repenchent toutes sur des trucs simples. Tu sais, vous avez interviewé M. Dubé dernièrement, puis moi, j'ai écouté l'entrevue, puis après ça, j'ai été jouer à un de ses jeux, puis Jotun, puis c'est simple, c'est hyper simple, mais c'est le fun. C'est le fun. C'est pas du game design qui a pris 3 ans à penser, là, cette affaire-là, sauf que l'exécution, le style, l'application, puis tout ça fait, la musique aussi, fait une expérience. Ça, c'est juste un exemple. Puis moi, je trouve que de plus en plus, les gens avec le moins de temps qu'ils ont pour consommer un produit, ben je trouve qu'il y a une place pour aussi des jeux simples. Puis ces jeux simples-là, selon moi, ils tirent beaucoup leur design des jeux du rétro gaming, du vieux temps que j'appelle, là, du 8-bit, 16-bit ou du VIC-20. Ils tirent leurs racines là, je crois, parce que dans le temps, ça marchait. Dans le temps, tu étais capable d'avoir du fun avec un jeu qui était simple, puis tu avais 3 actions à faire, puis tu comprenais ce que tu avais à faire.
C'est ça, c'est la complexité ne veut pas dire nécessairement que c'est un meilleur jeu.
C'est ça.
Ben écoute, Pierre-Luc, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de t'asseoir avec moi, de partager une poutine et de parler de ton expérience. C'était vraiment hyper intéressant. Moi, j'ai personnellement appris beaucoup, notamment sur Photoshop et la Game Boy Advance. C'est une révélation pour moi.
Ben, je suis content parce que, si tu vois, j'en parle, j'ai encore des frissons parce que j'ai vraiment aimé ça. Sincèrement, tu sais, on est trop développeurs ici, mais on sait tous qu'il y a des équipes avec lesquelles, tu sais, quand on les revoit, là, c'est comme quand, je vais dire à la guerre, là, mais tu sais, quand tu revois, quand tu revois, là, c'est comme, OK, respect, on a fait ça ensemble, tu sais. Ben, avec vous deux, j'ai chopé des jeux avec vous deux, puis on se revoit, puis c'est genre, OK, c'est beau, on a fait de quoi de pas pire, de cool en quelque part, le projet nous a marqué. Mais les gens de Game Boy, c'est la même affaire, tu sais, le programmeur, il est rendu en Nouvelle-Écosse, un des programmeurs, puis l'autre fois sur Skype, on s'est parlé, puis on se souvenait encore du temps où est-ce que sur l'heure du midi, on jouait au Neo Geo à Baseball Stars 2, puis on sacrait parce que justement, il me faisait sacrer parce qu'il me battait tout le temps, là. Puis moi, j'étais fâché, mais. Puis après ça, on retournait faire des jeux 2D, tu sais, sur Game Boy Advance. Tu sais, c'était quand même drôle. J'ai vécu ça. Et moi, je pensais jamais vivre ça. Quand je suis arrivé, là, dans l'industrie, là, PS1, là, j'avais pas que la 3D, là, moi. Fait que j'étais comme, je disais, jamais dans 100 ans, j'ai cru que j'allais faire des jeux 2D.
Ah, merci encore.
Ben, ça fait plaisir. Merci de l'invitation.
Donc oui, nous voilà déjà de retour à la Casa del Bellacel. Est-ce que c'est vraiment le nom légal de l'endroit actuellement?
Je pense que si tu tapes ça dans Google Maps, tu ne le trouveras pas, mais écoute, peut-être qu'éventuellement, ça va devenir l'appellation du coin, qui sait?
En cette ère de Face ID qui connaît notre visage, je crois que c'est la décision intelligente d'y aller avec ce nom-là. Qu'est-ce que t'en penses?
Google, si tu nous écoutes... On s'attend à ce que ça se fasse.
Google t'écoute toujours, Greg. Google t'écoute toujours. Non, on va parler de la discussion que tu as eue avec Pierre-Luc, même si, bon, on va dire la vérité, j'étais peut-être dans les parages, clin d'œil. Qu'est-ce que tu as retenu de la discussion à date? Est-ce que tu as eu des surprises malgré le fait que ça fait quand même un bail que tu connais Pierre-Luc?
Non, mais ça, ça fait longtemps que je le connais, mais on n'avait jamais eu l'occasion de discuter un peu de comment était de travailler sur un jeu Game Boy Advance. Donc ça, c'était quand même assez intéressant de voir un univers un peu différent avec des contraintes techniques très différentes de ce que moi j'ai connu comme au début de ma carrière. J'ai jamais travaillé sur des jeux 2D. Puis c'était aussi intéressant de voir un peu vraiment sa perspective sur comment est-ce que on s'en est plus vers la spécialisation, mais maintenant on vient un peu plus vers du côté généraliste. Donc le côté un peu que au final, est-ce que je dirais que c'est un cycle, c'est la roue de la vie, qui sait. Mais même avec le retour maintenant vers le rétro, donc, où même lui il voit des projets maintenant qui lui rappellent beaucoup ce qu'il faisait sur Game Boy Advance, c'est vraiment intéressant de voir un peu comment l'histoire se répète, si on veut.
Non, c'est intéressant. J'ai aussi eu l'impression, on parlait de la Wii, on parlait de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. J'ai l'impression à chaque fois qu'il y a un nouveau paradigme qui se présente de même, peut-être, ça amène l'industrie à se resetter, à recommencer à nouveau. On pourrait dire la même chose des jeux mobiles, des jeux free-to-play. À chaque fois qu'il y a une nouvelle chose qui arrive de même, d'après moi, l'industrie revient un petit peu à ses bases, essaie de comprendre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui intéresse les gens. Au début, les gens sont plus généralistes et éventuellement, on a des gens plus spécialisés, mais finalement, pour peut-être retourner au généralisme.
Puis j'espère qu'aussi ça a peut-être marqué les auditeurs. Tu parlais de son côté humain avant qu'on aille au restaurant le rencontrer. Effectivement, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé les leçons qu'il a données, en fait, sans s'en rendre compte, sur l'aspect curiosité, l'aspect de regarder les jeux, aussi bien les bons que les mauvais, puis vraiment essayer de comprendre ce qui se cache en arrière. Je pense effectivement que c'est un très bon conseil pour n'importe qui s'intéresse au game design, même n'importe qui travaille déjà dans le domaine. Ça reste des bons conseils si on est déjà dedans, mais si on veut vraiment éventuellement se diriger vers ce métier-là, je pense que c'est des très bonnes leçons à retenir.
C'est d'autant plus rafraîchissant, considérant sa feuille de route, son expérience. Ça serait tellement facile de faire preuve d'arrogance. Il y a encore un côté très humble actuellement. Je trouve ça super.
Non, c'est ça. L'idée qu'on n'a jamais fini d'apprendre dans ce domaine-là.
Justement, on n'a jamais fini d'apprendre et de faire de l'argent, Greg. On va se dire la vérité. Donc, on va parler des vraies affaires. Es-tu d'accord avec ça?
Oh, on va voir c'est quoi les vraies affaires, Pat.
Non, je veux parler des vraies affaires, Greg. Je veux parler des trucs qui vont nous amener à faire des euros. Donc, d'abord, si c'est votre premier contact avec Poutine à 2 et que vous n'êtes pas encore abonné, on vous en veut pas, on vous blâme pas, il y a des moyens pour le faire. Donc, d'abord, si vous êtes sur le site de Radio Kawa, vous pouvez avoir accès au fil RSS de Poutine à 2. Utilisez ce fil-là dans n'importe quelle application qui utilise des flux RSS et vous pouvez vous abonner à Poutine à 2. Manière encore plus facile, parce que qui dit intuitif dit bien sûr produit Apple. Donc, sur Apple Podcast, vous pouvez évidemment trouver Poutine à 2. C'est assez facile, rentrer Poutine à 2 dans l'engin de recherche et nous risquons d'apparaître. Bon, on parlait du passé, Greg, on parlait de changement de paradigme par mois des réseaux sociaux.
Ben oui, effectivement, vous pouvez bien évidemment nous suivre sur vos réseaux sociaux favoris en notant que ceci soit Facebook ou Twitter. Vous cherchez pour PA2.
Donc, il n'y a pas de Bandcamp pour nous?
Sait-on jamais s'il y a une demande populaire, peut-être de faire un Snapchat ou un Instagram pour partager nos recettes de cuisine en cette période des fêtes. Sait-on jamais, mais pour l'instant, on est sur les deux où ça nous permet de communiquer directement avec vous, d'annoncer nos futurs invités, la sortie des nouvelles émissions. Et c'est aussi une très bonne façon de nous approcher, de nous contacter si vous avez des commentaires ou des suggestions.
Et justement, parlant de rapprochement, bon, là, actuellement, Poutine à deux dans vos oreilles, on aime le rapport que nous allons avec vous, mais on doit l'avouer, on ne sort pas un épisode à chaque semaine, Greg. Est-ce qu'il y a des solutions pour vraiment contourner ce problème-là?
Si, comme nous, vous avez une soif de ce qui se passe dans l'industrie du jeu vidéo et que vous voulez avoir un point de vue de développeur ici à Montréal, il y a une alternative quand Poutine à deux est en repos, c'est de suivre « Les jeux sont faits », où on commente l'actualité des deux dernières semaines. On essaie de sortir des sujets qui nous ont marqués, d'amener notre point de vue, notre analyse, notre réflexion. Et également, maintenant, on essaie de se garder un sujet qui vient de la part des auditeurs. Donc, on soumet des sujets qu'on pense qui pourraient être intéressants. On laisse les auditeurs choisir lequel vient les chercher le plus et on en discute pendant une quinzaine de minutes.
Autant Poutine à deux, souvent, on se penche beaucoup plus sur les développeurs, beaucoup plus les personnes. Les jeux sont faits, c'est plus on se penche sur les choses. C'est-à-dire, effectivement, comme tu as dit, on parle de nouvelles, on parle de tendances, on parle aussi des fois de mouvements qui ont changé. On a parlé aujourd'hui de vieux genres de jeux, de vieilles consoles qui sont parties. Récemment, on a eu une discussion sur les genres de jeux oubliés. Et encore une fois, comme tu l'as dit, c'est alimenté par nos auditeurs. Donc, si vous voulez vous impliquer un peu dans une émission à propos de la création de jeux, ça pourrait être une très bonne opportunité. Greg, il y a beaucoup de personnes qui nous ont aidés dans cette grande aventure qui est Poutine à deux à date. On va les remercier. Donc, d'abord, j'aimerais vraiment prendre un moment pour remercier Benji Pesque pour l'identité sonore de Poutine à deux, Julien Bro pour l'identité visuelle. J'aimerais te remercier, toi, Greg, pour l'entrevue. Vraiment, l'animation, ça a été, ma foi, assez touchant. Merci.
Et en même temps, tu me demandes de parler de jeux vidéo et de manger de la poutine. C'est tout le plaisir est pour moi.
Non, absolument, mais il y a quelque chose à dire à propos de reconnaître tes forces, reconnaître tes intérêts et te commettre là-dedans, donc j'ai une grande appréciation.
Merci.
Et j'aimerais préciser, moi, Patrick Tellen, je me suis occupé de la production. Donc,
je te remercie toi-même, donc.
Ben oui,
voilà,
ben là,
c'est normal, oui, c'est important.
Je fais les crédits à la fin du film, on nomme tout le monde.
Tout à fait.
Je me suis quand même gardé à la fin. Je sais pas ce que ça dit sur moi, est-ce que j'aurais dû me mettre à l'avant ou après ou...
Mais tu sais que généralement, la tradition dans les jeux, il y a peut-être un fun fact au niveau des crédits, c'est que généralement, la personne qui est au début et la personne qui est à la fin sont considérées comme les personnes les plus importantes dans la production.
Très bien, j'en prends bonne note. À savoir, est-ce qu'on est conformiste, anticonformiste? On va le déterminer, on verra ça un petit peu plus tard. Petit remerciement assez naturel, un gros merci à Pierre-Luc pour son temps. Sérieusement, ça a été très, très plaisant. Je crois sur ça, Greg, on souhaite à dans deux semaines à nos auditeurs. Ça se résume à ça?
Oui, bien sûr, avec un nouvel invité, on en dira plus sur les réseaux sociaux, si vous nous suivez, bien évidemment.
Quelle manière de prendre les auditeurs en otage, c'est magnifique. Et aussi, entre-temps, si vous ne savez pas quoi faire de vos oreilles, on peut vous offrir des bandes-annonces de Radio Kawa. Donc, sur ce, on se dit à dans deux semaines. Au revoir.
Toutes les deux semaines avec Yann
et avec Lou,
on vous parle du jeu vidéo d'aujourd'hui à travers les news, des critiques de jeux, des dossiers.
On reçoit également des invités et on répond à vos questions.
La cartouche, ce n'est pas toute l'actualité du jeu vidéo,
c'est votre actualité du jeu vidéo.
Un vendredi sur deux
sur Radio Kawa.
C'est La Cartouche sur Radio Kawa.
On dit souvent que tout était mieux avant. Qu'en pensez-vous, Papy Groublin ?
C'est vrai, c'est vrai. Tout était beaucoup mieux avant. À l'exception de la difficulté de l'accès à la musique japonaise.
Coucou, c'est Amo. Kaorin, c'est le podcast musical dédié à la culture visuelle japonaise. Wink ! Générique et soundtrack d'anime, JRPG, visual novel, toutes les époques, tous les genres, que vous soyez otaku ou non. Kaorin, votre podcast musical d'1h30 sur la culture visuelle japonaise, c'est sur Radio Kawa.
Puis on n'avait pas de doujin hentai ni zekai non plus.
Mais arrête Pépé.
Quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter.
Et à mon avis, elle mérite 5 étoiles.
Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute.